Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 7. L'envoyé du duc de Bourgogne. Le lendemain dès l'aube, Quentin revêtit avec un orgueil juvénile le beau costume de la garde écossaise. Il avait si bonne grâce que le vieux Leslie daigna lui exprimer toute sa satisfaction. Si tu te montres aussi fidèle et aussi brave que tu es bien tourné, j'aurai un des plus beaux écuyers de la garde, ce qui ne pourra que faire honneur à la famille de ta mère. Suis-moi à la salle d'audience, et vois à te tenir tout près, derrière moi. » Alors il prit une pertuisane d'un poids considérable et longue à proportion, couverte de belles incrustations et de riches ornements. Il en donna à son neveu une toute pareille, sauf qu'elle était plus légère. Ensuite, ils se rendirent dans la cour intérieure du palais. Ceux de leurs camarades qui devaient être de service dans l'intérieur des appartements étaient déjà en rang, sous les armes. Les écuyers se tenaient derrière leurs maîtres, formant ainsi un second rang. À un signal donné, ils se mirent tous en mouvement, sous les ordres du balafré, qui remplissait ce jour-là les fonctions d'officier, et se rendirent à la salle d'audience, où le roi devait arriver immédiatement après. Quentin s'était formé des splendeurs d'une cour les idées les plus brillantes. Aussi fut-il fort désappointé du spectacle qui s'offrit à ses regards. Les officiers de la maison du roi, il est vrai, portaient de riches costumes, ainsi que les gardes et les domestiques. Mais il ne vit dans l'assemblée aucun des anciens conseillers du royaume, aucun des grands officiers de la couronne, et n'entendit aucun de ces noms qui évoquent les souvenirs brillants de la chevalerie. Il n'aperçut aucun de ces généraux qui, encore dans la fleur de l'âge, étaient la force de la France, ni aucun de ces nobles plus jeunes et plus ardents qui en étaient l'orgueil. Les habitudes de jalousie, les manières réservées du roi, sa politique profonde et artificieuse, avaient écarté du trône ce cercle brillant, et on ne les voyait à la cour que dans certaines occasions déterminées et officielles. Ils n'y venaient d'ailleurs qu'à contre-cœur, et s'en retournait avec empressement. Les seuls personnages que l'on vit à titre de conseiller étaient des hommes de basse mine, dont la physionomie exprimait quelquefois la sagacité, mais dont les manières montraient qu'on les avait appelés dans un monde pour lequel leur éducation première et leurs habitudes les avaient médiocrement préparés. Une ou deux personnes pourtant lui semblèrent avoir un air plus noble. Et le respect de la discipline n'empêcha pas son oncle de lui apprendre les noms de ceux qu'il remarquait plus particulièrement. Quentin connaissait déjà Lord Crawford, qui était de service, revêtu de son riche costume et portant en main un bâton de commandement en argent. Parmi plusieurs autres, qui paraissaient gens de qualité, le plus remarquable était le comte de Dunois, fils du célèbre Dunois, qui, sous la bannière de Jeanne d'Arc, avait joué un rôle si brillant dans la lutte qui délivra la France du joug anglais. Son fils portait dignement son nom. Malgré sa parenté avec la famille royale, malgré sa popularité héréditaire, aussi bien parmi le peuple que parmi la noblesse, Dunois, en toute occasion, avait montré une loyauté si ouverte et si franche qu'il avait échappé à tous les soupçons, même à ceux du roi Louis, pourtant si jaloux. Louis aimait à la voir auprès de sa personne, et quelquefois même lui donnait accès dans ses conseils. Quoiqu'il fût accompli dans tous les exercices de la chevalerie, et qu'il eût presque en perfection le caractère du vrai chevalier, la personne du comte n'était pas, à beaucoup près, un modèle de beauté romantique. Sa taille était au-dessous de la moyenne, quoiqu'il fût très fort et très robuste, et il avait les jambes légèrement arquées. Ses épaules étaient larges, ses cheveux noirs, son teint brun, et ses bras remarquablement longs et nerveux. Ses traits étaient irréguliers jusqu'à la laideur. Malgré cela, il avait un air de dignité et de noblesse, où l'on devinait au premier coup d'œil le noble de haute naissance et le soldat sans peur. Il portait un riche costume de chasse. Appuyé au bras de son parent Dunois, marchait d'un pas lent et mélancolique, le duc d'Orléans, premier prince du sang, qui fut roi depuis sous le nom de Louis XII. En butte aux soupçons jaloux du roi, ce prince, qui, dans le cas où le fils du roi viendrait à mourir, était l'héritier présomptif du royaume, ne pouvait s'absenter de la cour, ni y remplir aucun emploi. L'abattement que lui causait le sentiment de sa dégradation et de sa demi-captivité s'accroissait en ce moment d'une cruelle angoisse. Le roi méditait à son égard un des actes les plus cruels et les plus injustes que puisse commettre un tyran. Il voulait le contraindre à épouser Jeanne de France, sa seconde fille, à laquelle il avait été engagé dès son enfance. Mais Jeanne était contrefaite, et insister sur l'accomplissement du mariage était un acte d'une abominable rigueur. Un personnage qui avait une toute autre attitude, c'était l'orgueilleux cardinal et prélat Jean de la Balue, ministre favori de Louis à cette époque. Ce cardinal était tombé dans l'erreur commune à ses pareils. Il se figurait que, grâce à son génie, il pouvait mettre la main dans toutes les affaires, même celles qui étaient le plus étrangères à sa profession et à ses études. Il était de sa personne grand et gauche, avec une affectation ridicule de galanterie. Le roi sait-il, dit Dunois au cardinal, que l'envoyé du duc de Bourgogne demande péremptoirement une audience? Oui, répondit le cardinal, et voici venir sa haute suffisance, Olivier le Dain, pour nous faire connaître, je pense, le bon plaisir du roi. Comme il parlait, sortit des appartements intérieurs un remarquable personnage, qui balançait dans la faveur du roi l'orgueilleux cardinal lui-même. Seulement sa démarche n'avait rien de l'importance et de la prétention de celle de l'homme d'église. C'était un petit homme, maigre et pâle, habillé d'un modeste vêtement de soie noire. Il portait à la main un bassin d'argent, et une serviette jetée sur son bras indiquait la nature peu relevée de ses fonctions. Son regard était vif et pénétrant, mais il avait bien soin d'en dissimuler la pénétration et la vivacité, en tenant ses yeux obstinément fixés sur le sol. Avec le pas tranquille et furtif d'un chat, il semblait glisser plutôt que marcher. Mais si la modestie peut facilement voiler le mérite, elle ne peut pas cacher la faveur de cour. L'homme avait beau se glisser à la dérobée à travers la salle d'audience, tous ses efforts étaient vains. On savait trop qu'il avait l'oreille du roi, ce célèbre barbier, ou valet de chambre. Olivier le Dain, appelé aussi le mauvais, ou même le diable, à cause de l'habileté peu scrupuleuse qu'il mettait au service du roi pour mener à bien les plans de sa politique tortueuse. Il eut quelques instants d'entretien sérieux avec le comte de Dunois, qui sortit aussitôt, pendant que le barbier, toujours de son même pas furtif, regagnait l'appartement dont il était sorti quelques instants auparavant, chacun s'empressant de lui faire place. Il répondait à cette politesse par d'humbles révérences. Cependant, il fit de deux ou trois personnes un objet d'envie pour toutes les autres, en leur murmurant un seul mot à l'oreille. Et aussitôt, prétextant les devoirs de sa charge, il esquivait leurs réponses et se dérobait aux instants de sollicitation de ceux qui cherchaient à attirer son attention. Bientôt les portes s'ouvrirent, et le roi Louis entra dans la salle d'audience. Quentin, comme les autres, porta ses regards sur lui, et il eut un tel soubresaut qu'il laissa presque échapper de ses mains sa pertuisane, en reconnaissant dans le roi de France, ce marchand, maître Pierre, qu'il avait eu pour compagnon dans sa promenade matinale de la veille. Il fut rappelé à lui-même par le regard sévère de son oncle, outré de ce manque de décorum dans l'accomplissement de ses fonctions. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque le roi, dont l'œil perçant l'avait tout de suite découvert, vint droit à lui, sans faire attention à aucun des autres assistants. Ainsi donc, jeune homme, dit-il, on m'apprend que vous avez eu une querelle le jour même de votre arrivée en Touraine. Mais je vous pardonne, car ça a été surtout la faute d'un vieux fou de marchand, qui croyait que le sang d'un jeune Calédonien avait besoin d'être fouetté par un coup de vin de Beaune. Si je puis découvrir ce marchand, j'en ferai un exemple pour la gouverne de ceux qui débauchent mes gardes. Balafré, ajouta-t-il en s'adressant à Leslie, votre neveu est un gentil garçon. quoiqu'un peu ardent. C'est une disposition que nous aimons à entretenir, et notre intention est de traiter mieux que jamais les braves qui nous entourent. Faites écrire l'année, le jour et l'heure de la naissance de votre neveu, et donnez le papier à Olivier Ledain. Le balafré s'inclina jusqu'à terre, et reprit à l'instant sa position de soldat sous les armes, pour montrer que le roi pouvait absolument compter sur lui. Aussitôt après l'arrivée du roi, les princesses de France firent leur entrée, avec les dames de leur suite. L'aînée, qui plus tard épousa Pierre de Bourbon, et est connue dans l'histoire sous le nom de Dame de Beaujeu, était grande et assez belle. Elle avait de l'éloquence, du talent, beaucoup de la sagacité de son père, qui avait grande confiance en elle, et l'aimait autant qu'il pouvait aimer quelqu'un. La sœur cadette, l'infortunée Jeanne, la fiancée du duc d'Orléans, s'avança timidement à côté de sa sœur, sachant trop bien qu'elle manquait de ces qualités extérieures que les femmes sont si désireuses de posséder, ou d'avoir la réputation de posséder. Elle était pâle, maigre, d'apparence maladive, contrefaite et boiteuse. Elle avait de belles dents, des yeux pleins de mélancolie, de douceur et de résignation, avec une profusion de boucles de cheveux d'un brun clair. Et maintenant à cheval, gentilhomme et dame, dit le roi. Dieu et Saint-Hubert bénissent notre chasse matinale. Je suis, j'en ai peur, condamné à y mettre obstacle, sire, dit le comte de Dunois. L'envoyé du duc de Bourgogne est aux portes du château et demande une audience. Demande une audience, Dunois, répliqua le roi. Ne lui avez-vous pas répondu, d'après nos instructions transmises par Olivier, que nous n'avons pas le loisir de le voir aujourd'hui, que demain c'est la fête de Saint-Martin et que nous ne voulons pas la troubler par des pensées terrestres? Qu'après-demain nous avons affaire à Amboise, mais que nous ne manquerions pas de lui donner audience aussitôt que nous le permettraient des affaires pressantes. Je lui ai dit tout cela, répondit Dunois. Mais sire, pasque Dieu l'ami, qu'est-ce qui te tient donc si fort au gosier? S'écria le roi. Les expressions de ce bourguignon doivent avoir été bien dures à digérer. Sachez donc, sire, que le comte de Crèvecœur est en bas, avec sa suite de poursuivants et de trompettes. Il dit que, puisque votre majesté lui refuse l'audience qu'il a l'ordre de lui demander au nom de son maître, il y restera jusqu'à minuit, et accostera votre majesté à quelque heure qu'il lui plaise de sortir du château, pour affaires, pour prendre de l'exercice ou pour faire ses dévotions. Aucune considération, sauf l'emploi de la force, ne l'empêchera d'accomplir ce qu'il a résolu. C'est un sot, dit le roi avec beaucoup de calme. S'imagine-t-il, ce cerveau brûlé du Hainaut, que ce soit pénitence pour un homme censé rester 24 heures entre les murs de son château, quand il a pour s'occuper les affaires d'un royaume? Gentil Dunois, nous tiendrons conseil aujourd'hui au lieu de chasser. Mon suzerain, répondit Dunois, vous ne vous débarrasserez pas si facilement de Crèvecœur. D'après les instructions de son maître, s'il n'obtient pas l'audience qu'il demande, il doit clouer son gantelet aux palissades, devant le château, en signe de mortel défi de la part du duc de Bourgogne, renoncer à la féauté du duc envers la France et déclarer la guerre, par ce seul fait. Ah, dit Louis, sans que sa voix trahît la moindre altération, mais en fronçant les sourcils au point que ses yeux noirs et perçants devinrent presque invisibles. En est-il donc ainsi? Notre ancien vassal nous parlera-t-il en maître? Notre cousin nous traitera-t-il d'une façon si discourtoise? Eh bien, alors, Dunois, nous déploierons l'oriflamme et nous crierons Montjoie Saint-Denis. Ainsi soit-il de tout mon cœur, répondit le belliqueux Dunois. Les gardes, incapables de résister à l'impulsion qui l'avait fait parler, s'agitèrent, chacun à son poste, et l'on entendit un bruit d'armes, sourd mais distinct. Le roi promena autour de lui un regard plein de fierté, et pour un moment il eut en lui l'âme de son père héroïque, et il lui ressembla. Mais l'excitation du moment fit place aussitôt aux considérations politiques, qui, à l'heure présente, rendait une rupture ouverte avec le duc de Bourgogne particulièrement dangereuse. Édouard IV, brave et victorieux, qui avait donné de sa personne dans 30 batailles, établi sur le trône d'Angleterre, était frère de la duchesse de Bourgogne, et comme on pouvait le supposer, n'attendait qu'une rupture entre Louis et son proche parent pour rentrer en France par la porte toujours ouverte de Calais. Louis ne pouvait pas compter sur la fidélité du duc de Bretagne. Et à ces considérations se joignaient bien d'autres graves sujets de réflexion. Aussi, après une pause assez longue, lorsque Louis reprit la parole, le son de sa voix était toujours le même, mais ses dispositions avaient changé. Mais, dit-il, à Dieu ne plaise que rien, sauf la nécessité nous porte, nous, le roi très chrétien, à provoquer l'effusion du sang chrétien, s'il y a un moyen de détourner une pareille calamité. Nous songeons plutôt à la sûreté de nos sujets qu'à la légère atteinte portée à notre dignité par les paroles malsonnantes d'un ambassadeur mal appris, qui a peut-être outrepassé ses instructions. Qu'on introduise l'envoyé du duc de Bourgogne en notre présence. Une sonnerie de trompette dans la cour annonça l'arrivée du noble bourguignon. Tous ceux qui étaient dans la salle d'audience se hâtèrent de prendre les places que leur assignait le code des préséances. Le roi et ses filles demeurèrent au centre de l'assemblée. Le comte de Crèvecœur, soldat renommé et toujours victorieux, entra dans la salle. Contrairement au rite en usage entre puissances amies, il apparut tout armé, mais tête nue. Un beau page tenait son casque derrière lui. Un héraut le précédait, portant sa lettre de créance, qu'il présenta au roi, le genou en terre. L'ambassadeur lui-même s'arrêta au milieu de la salle. Le reste de sa suite attendait dans l'antichambre ou dans la cour. Approchez, seigneur comte de Crèvecœur, dit Louis, après avoir jeté un coup d'œil sur sa commission. Nous n'avons pas besoin de lettres de créance de notre cousin, soit pour introduire auprès de nous un guerrier si bien connu, soit pour nous assurer du crédit bien mérité dont vous jouissez auprès de votre maître. Nous espérons que votre noble épouse, qui a dans les veines un peu du sang de nos ancêtres, est en bonne santé. Si vous l'aviez amenée avec vous, seigneur comte, nous aurions pu croire que vous portiez l'armure, contre l'usage en pareille circonstance, pour maintenir contre la galante chevalerie de France la supériorité de ses charmes. En son absence, nous ne pouvons comprendre la raison de cette panoplie. Sire, répliqua l'ambassadeur. Le comte de Crèvecœur ne peut que déplorer son infortune et implorer votre pardon de ne pouvoir, en cette occasion, répondre avec l'humble déférence que mérite la royale courtoisie dont votre majesté l'a honorée. Mais, si c'est seulement la voix de Philippe Crèvecœur de Cordès qui parle, les paroles qu'il prononce doivent être celles de son gracieux seigneur et souverain, le duc de Bourgogne. Et qu'a à nous dire le duc de Bourgogne par la bouche de Crèvecœur? Dit Louis en prenant un air de dignité. Et pourtant, arrêtez. Souvenez-vous qu'ici, Philippe Crèvecœur de Cordès parle à celui qui est le souverain de son souverain. Crèvecœur s'inclina et répondit à haute et intelligible voix. Roi de France, le puissant duc de Bourgogne vous envoie de nouveau une liste par écrit des torts commis et des opérations pratiquées sur ses frontières par les garnisons et officiers de votre majesté. Ma première question doit être celle-ci. Votre majesté est-elle disposée à donner satisfaction pour ses offenses? Le roi, jetant un simple coup d'œil sur le mémorandum que le héraut lui tendait à genoux, répondit. Il y a déjà longtemps que ces affaires ont été soumises à notre conseil. Des offenses dont on se plaint, quelques-unes sont en représailles de torts soufferts par mes sujets. D'autres sont affirmées sans preuve. Quelques-unes ont été punies par les garnisons et les soldats du duc. S'il s'en rencontre d'autres, qui ne rentrent dans aucune de ces catégories, en notre qualité de prince chrétien, nous sommes prêts à donner satisfaction pour les torts réellement soufferts par notre voisin, encore qu'ils aient été commis, non seulement sans notre aveu, mais encore contre notre défense expresse. Je rapporterai la réponse de votre majesté à mon gracieux maître, dit l'ambassadeur. Cependant, permettez-moi de le dire, comme elle ne diffère en rien des réponses évasives qui ont déjà été faites à ces justes réclamations, je n'ose espérer qu'elle contribue à rétablir la paix entre la France et la Bourgogne. À la grâce de Dieu, dit le roi, ce n'est point par crainte des armes de ton maître, mais uniquement par amour de la paix, que je fais une réponse si modérée à ces reproches injurieux. Continue. Mon maître demande ensuite, reprit l'ambassadeur, que votre majesté mette un terme à ces pratiques secrètes et clandestines avec ces villes de Gand, Liège et Malines, qu'elle rappelle les agents secrets qui excitent le mécontentement de ces bons sujets de Flandre, et expulse de ces états, ou plutôt livre à la juste sévérité de leur seigneur, les traîtres qui, après s'être enfuis du théâtre de leur machination, ont trouvé trop facilement refuge à Paris, à Orléans, à Tours et autres villes françaises. Dites au duc de Bourgogne, répliqua le roi, que je n'ai nulle connaissance des pratiques clandestines dont il m'accuse si injurieusement, que mes sujets de France ont de fréquentes relations avec les bonnes cités de Flandre, pour le plus grand bien des deux parties, par le moyen d'un libre trafic que le duc a autant d'intérêt que moi à ne pas interrompre, que, dans d'autres parts, beaucoup de Flamands ont leur résidence dans mon royaume et jouissent de la protection de mes lois pour la même raison. Mais aucun que je sache en esprit de trahison ou de révolte contre le duc. Continuez, vous avez entendu ma réponse. Comme précédemment, reprit le comte de Crèvecœur, je le dis avec peine, cette réponse n'est pas d'une nature assez nette et assez explicite pour que le duc l'accepte en compensation d'une longue suite de machinations, qui n'en sont pas moins certaines, quoique désavouées en ce moment par votre majesté. Mais je continue à m'acquitter de mon message. Le duc de Bourgogne requiert en outre le roi de France de renvoyer dans ses états, sans délai, et sous bonne garde, les personnes d'Isabelle, comtesse de Croix, et de sa parente et tutrice, la comtesse Ameline, pour ce que ladite comtesse Isabelle, étant de par la loi du pays la pupille dudit duc de Bourgogne, s'est enfuie de ses états, et est maintenue ici en secret par le roi de France, et par lui encouragée dans sa résistance contre le duc, en violation des lois divines et humaines, telles qu'elles ont été toujours reconnues dans l'Europe civilisée. Encore une fois, je m'arrête pour entendre la réponse de votre majesté. Vous avez bien fait, dit le roi avec ironie, de commencer votre ambassade de bonne heure. Car si c'est votre intention de me demander compte de la fuite de tous les vassaux que la violence de votre maître peut forcer à fuir de ses états, le chapelet pourra durer jusqu'au soir. Qui peut affirmer que ces dames soient dans mes états? Et à supposer qu'elles y soient, qui osera soutenir que je les ai encouragées à fuir, ou que je les ai reçues avec des offres de protection? Bien plus, qui osera prétendre que si elles sont en France, le lieu de leur retraite me soit connu? Sire, dit Crèvecœur, plaise à votre majesté, j'avais par-devers moi un témoin à ce sujet, un témoin qui a vu les fugitives dans l'hôtellerie appelée la Fleur de Lys, non loin de ce château, qui a vu votre majesté en leur compagnie, quoique sous le déguisement peu convenable d'un bourgeois de Tours, qui a reçu d'elle, en votre royale présence, des messages et des lettres pour leurs amis de Flandre, messages et lettres qu'il a fait parvenir à la connaissance du duc de Bourgogne et remettre entre ses mains. Faites-le comparaître, dit le roi. Mettez face à face avec moi celui qui ose soutenir des mensonges aussi palpables. Vous en parlez à votre aise, monseigneur, car vous savez bien que ce témoin n'existe plus. De son vivant, il s'appelait Zamet Maugrabin, et c'était un de ces bohémiens vagabonds. Il a été exécuté hier, à ce que j'ai appris, par les gens du prévôt de votre majesté. On craignait sans doute de le voir comparaître ici pour confirmer ce qu'il avait dit de l'affaire au duc de Bourgogne, en présence de son conseil et de moi, Philippe Crèvecœur de Cordès. Nous avons montré jusqu'ici, dit le roi en l'interrompant, assez et même trop de patience, et puisque tu sembles, en venant ici, n'avoir eu pas d'autre objet en vue que de nous insulter, nous enverrons quelqu'un, en notre nom, au duc de Bourgogne. Convaincu qu'en te conduisant de la sorte envers nous, tu as outrepassé tes instructions, quelles qu'elles puissent être. Au contraire, répliqua Crèvecœur, car je n'ai pas encore tout dit. Oyez, Louis de Valois, roi de France, Oyer, noble et gentilhomme qui pouvait être présent. Oyer, homme honnête et franc. Et toi, toison d'or, ajouta-t-il en s'adressant au héros, fais proclamation après moi. Moi, Philippe de Crèvecœur, comte de l'Empire et chevalier de l'ordre honorable et princier de la toison d'or, au nom du très-puissant seigneur et prince Charles, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne et de Lorraine, de Brabant et de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comte de Flandre et d'Artois, comte palatin de Hainaut, de Hollande, Zélande, Namur et Zutphen, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salines et Malines, je vous fais à savoir, ouvertement à vous, Louis, roi de France, qu'ayant refusé de réparer les différents griefs, torts et offenses causés par vous ou par votre aide, suggestion et instigation contre ledit duc et ses aimés sujets, lui, par ma bouche, renonce à toute allégeance et féauté envers votre couronne et votre dignité, vous déclare faux et sans foi, et vous défie, comme prince et comme homme. Voici mon gage, en foi de ce que j'ai dit. En prononçant ces paroles, il retira le gantelet de sa main droite et le jeta sur le plancher de la salle. Jusqu'à cet acte, qui était le comble de l'audace, un silence profond avait régné dans la salle royale pendant toute la durée de cette scène extraordinaire. Mais quand le gantelet résonna sur le sol et que le héros eut crié à haute voix « Vive Bourgogne !» il y eut un tumulte général. Pendant que Dunois, le duc d'Orléans, le vieux Lord Crawford et un ou deux autres que leur rang autorisait à intervenir se disputaient l'honneur de relever le gant, tous les autres assistants criaient « Tuez-le! Taillez-le en pièces! Vient-il ici pour insulter le roi de France dans son propre palais? » Mais le roi apaisa le tumulte en criant d'une voix de tonnerre qui intimida toute l'assemblée et la réduisit au silence. Silence, mes fidèles. Que nul ne porte la main sur cet homme et ne touche à ce gage, même du bout du doigt. Et vous, sire comte, de quoi donc est faite votre vie? Et sur quelle protection comptez-vous pour la jouer ainsi sur un coup de dé aussi périlleux? Ou bien votre duc est-il donc d'un autre métal que les autres princes pour soutenir sa prétendue querelle d'une façon si peu usitée? Il est certainement d'un métal autre et plus précieux que les autres princes de l'Europe, répondit intrépidement le comte de Crèvecœur. Car lorsque pas un d'eux n'osait vous donner asile, à vous, dis-je, roi Louis, lorsque vous n'étiez encore que dauphin, exilé de France, et poursuivi par toute l'amertume de la vengeance de votre père, et par toute la puissance du royaume, vous avez été reçu et protégé comme un frère par mon noble maître, dont vous avez si mal reconnu la générosité. Adieu, sire, ma mission est terminée. Ayant parlé ainsi, le comte de Crèvecœur sortit brusquement sans prendre autrement congé. Après lui, après lui, qu'on ramasse le gant et que l'on court après lui. Pas vous, Dunois, ni vous, Lord Crawford, qui êtes trop vieux pour une pareille mission, ni vous, d'Orléans, qui êtes trop jeune. Monseigneur le cardinal, seigneur évêque d'Auxerre, c'est votre devoir sacré de faire la paix entre les princes. Ramassez le gantelet et remontrez au comte de Crèvecœur quel péché il a commis en insultant ainsi un grand monarque dans sa propre cour et en le forçant à appeler les misères de la guerre sur son royaume et sur celui de son voisin. Sur cet appel direct et personnel, le cardinal Labalu se mit en devoir de ramasser le gantelet avec autant de précaution que si c'eût été une vipère, tant ce symbole de guerre sembla lui inspirer d'horreur. Ensuite, il quitta l'appartement royal pour courir après le provocateur. Louis promena ses regards en silence sur le cercle de ses courtisans. La plupart d'entre eux, étant gens de basse extraction et choisis par le roi pour tout autre chose que leur courage et leur fait d'armes, s'entre-regardaient tout pâle. On voyait qu'ils avaient ressenti une impression fort déplaisante de la scène qui venait d'avoir lieu. Louis les regarda avec mépris et dit tout haut: Quoique le comte de Crèvecœur soit présomptueux et outrecuidant, il faut confesser que le duc de Bourgogne a en lui le plus hardi serviteur qui ait jamais porté message au nom d'un prince. Je voudrais bien savoir où trouver un messager aussi fidèle pour porter ma réponse. Sire, dit Dunois, vous faites tort à votre noblesse française. Il n'est pas un de nous qui ne se chargeât volontiers de porter un défi au duc de Bourgogne à la pointe de son épée. Et sire, ajouta le vieux Crawford, vous faites tort aussi aux gentilshommes écossais qui vous servent. Moi, ou le premier de ceux qui me suivent, n'hésiterions pas un moment à demander raison à ce comte orgueilleux. Mon bras est encore assez vigoureux pour cela, si j'ai seulement la permission de votre majesté. Mais, continua Dunois, votre majesté ne veut nous employer à aucun de ses services, où nous pourrions acquérir de l'honneur pour nous-mêmes, pour votre majesté ou pour la France. Dites plutôt, Dunois, répliqua le roi, que je ne veux pas donner carrière à cette téméraire impétuosité, qui, pour un point d'honneur chevaleresque, vous perdrait, et avec vous le trône, la France et tout. Mais voici le cardinal, chargé, nous l'espérons, de nouvelles plus pacifiques. Eh bien, monseigneur, avez-vous ramené le comte au calme et à la raison? Sire, dit la Balue, ma tâche a été difficile. J'ai fait entendre à ce comte orgueilleux que pour avoir osé adresser à votre majesté le plus présomptueux reproche qui a rompu la conférence et qui, évidemment, venait non de son maître, mais de sa propre insolence, il s'était mis à la discrétion de votre majesté et avait encouru tel châtiment qu'il vous conviendrait de lui infliger. Vous avez bien fait, répliqua le roi. Et qu'a-t-il répondu? Le comte, continua le cardinal, avait en ce moment le pied à l'étrier. Il tourna la tête sans changer de position. Eussé-je été, dit-il, à 50 lieues, si j'avais appris que le roi eût posé une question injurieuse pour mon prince, je serais revenu pour me soulager en lui faisant la réponse que je viens de lui faire. Eh bien, messeigneurs, dit le roi, en se retournant sans témoigner la moindre colère. Je soutiens qu'en la personne du comte, notre cousin le duc possède le plus digne serviteur qui ait jamais chevauché à la droite d'un prince. Mais vous l'avez décidé à rester? Pour 24 heures, et à retirer pour ce temps-là son gage de défi, dit le cardinal. Il est descendu à la fleur de lys. Voyez, dit le roi, à ce qu'on le traite noblement et à nos frais. Un tel serviteur est un joyau pour la couronne d'un prince. 24 heures, ajouta-t-il en s'adressant à lui-même. 24 heures, c'est bien court. Et pourtant, en 24 heures, un homme intelligent et avisé peut faire bien des choses. Bon, en forêt, mes galants seigneurs. N'oubliez pas vos épieux. On m'a parlé d'un sanglier capable de tenir tête aux chasseurs et aux chiens. Dunois, prêtez-moi votre épieu et prenez le mien, qui est trop lourd pour moi. Mais vous, quand vous a-t-on jamais entendu vous plaindre du poids de votre lance? À cheval, gentilhomme.